Aliette, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous nous retrouvons. La dernière fois, nous étions quittés suite à notre première émission. Vous nous aviez parlé de votre rapport au cinéma. Et puis, après l'émission, à la machine à café, après notre deuxième double expresso bien sucré.
Oui.
Il nous est arrivé une illumination de vous m'avez proposé de parler de films très spécifiques, de nous retrouver régulièrement pour parler justement d'un film. Voilà. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, ça se réalise.
Oui.
C'est quand même formidable.
Oui.
Alors, Aliette, merci encore de m'accueillir chez vous.
Bien volontiers.
De quel film allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors, j'ai choisi le film « Miracle en Alabama » de Arthur Penn, qui a 55 ans, ce film, et que j'aurais vu il y a 2 mois avec la même émotion. Et c'était de cette émotion que je voulais parler, et surtout des questions que ce film a soulevées à nouveau pour moi.
D'accord. Donc moi, je l'ai découvert grâce à vous il y a 2 jours. J'ai été très impressionné, et c'est un film qui, moi, m'a beaucoup touché par rapport à l'aspect éducatif.
Oui.
Voilà, c'est ça que vraiment j'ai retenu dans ce film-là. Donc dites-moi un peu plus pour vous, de votre côté, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez redécouvert, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors d'abord dire le sujet. Il s'agit de l'histoire d'une enfant, Hélène Keller, qui à 19 mois est devenue aveugle, sourde et muette à la suite d'une fièvre forte. Et c'est l'histoire donc de cet enfant qui est confié à l'âge de 7 ans à une éducatrice, pour voir ce qu'on pouvait faire avec elle. Donc c'est Hélène Keller est d'un milieu aisé. Elle est confiée à cette Annie Sullivan qui, elle, vient d'un milieu modeste et qui, elle-même, a subi plusieurs opérations des yeux parce qu'elle était aussi menacée de cécité. Et donc, moi, ce film me touche, d'abord parce qu'il est question de destin exceptionnel, à la fois celui d'Hélène Keller, qui est morte à 87 ans après avoir eu un nombre incroyable de diplômes, de reconnaissances, de projets, et elle avoir fait le tour du monde, toujours donc privée de vue et privée d'ouïe, mais elle arrivait à prononcer quelques mots grâce à cette rééducation. C'est le destin aussi de cette Annie Sullivan en tant qu'éducatrice, donc pédagogue, et c'est aussi l'histoire d'une famille, c'est l'histoire, pour moi, de l'enfermement, et je trouve que Arthur Penn a été tout à fait extraordinaire, à la fois dans le choix des sujets, dans le choix des acteurs, des deux actrices, donc de cette Sullivan, de cette femme absolument extraordinaire, et de cette Patty Duke, qui est aussi l'enfant, enfin cette actrice qui joue l'enfant de 7 ans, de 8 ans. Voilà. Voilà, en gros, ce qui est posé là, et pour moi, j'ai été bouleversée par la façon dont Arthur Penn traite ce sujet.
Voilà, oui, donc ces deux comédiennes donc, qui sont issues qui sont issues de l'acteur studio, donc de...
Oui, Anne Bancroft, oui. Et Patty Duke.
Voilà, c'est ça.
Les deux actrices majeures. Les autres acteurs sont aussi étonnants, donc j'ai beaucoup aimé tous les seconds rôles.
Oui.
Les parents notamment, le frère, oui. Etc.
Et alors j'étais surpris parce que pour moi le premier rôle, c'était Patty Duke pour moi, donc Hélène Keller, et j'en ai discuté avec vous hier, et vous aviez finalement, en regardant plus, moi en m'informant plus sur ce film-là, je me suis rendu compte qu'en fait, Anne Bancroft, donc, qui joue le rôle de l'éducatrice,
Annie Sullivan,
oui, a eu l'Oscar du premier rôle féminin, et c'est Patty Duke qui a eu l'Oscar du second rôle. Voilà, et donc ça rejoignait ce que vous aviez vu hier, fait, que vous étiez moi j'avais dit que j'étais très impressionné par le rôle de Patty Duke, par le jeu de Patty Duke, et que j'aurais bien aimé jouer ce rôle-là. Et vous m'avez dit que vous aviez été impressionné par...
Mais en fait, c'est surtout l'histoire d'une rencontre.
Ouais.
C'est ça qui m'a intéressée. Et alors, si je n'avais qu'un seul mot pour définir ce film et sa force et sa puissance, c'est un huis clos. C'est le huis clos dans la tête, qui nous permet d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête de cet enfant, privé donc de toute cette façon de communiquer avec l'extérieur. C'est le huis clos de la chambre de Annie Sullivan, dans laquelle il y a une première scène de corps à corps entre les deux. Mais surtout, alors que j'entends parler de ce film, surtout pour la scène du miracle, donc c'est-à-dire la scène de la pompe à eau où enfin donc Hélène va découvrir, va faire cette révolution, elle va voir et donner à voir qu'elle a enfin réalisé que les choses ont un nom. Pour moi, donc bien sûr c'est le happy end, pour moi la scène majeure, la scène difficile, confrontante, c'est celle de la salle à manger où pendant une très longue bataille, une guerre entre les deux femmes qui donne du corps à corps, où ça casse, ça tape, ça frappe, ça cogne et ça se répète comme ça, nous sommes témoins du choix que fait cette éducatrice de passer par ce canal quelque chose d'une lutte gréco-romaine, parce que ça passe par le corps. Et bien sûr, ça nous confronte, nous, aujourd'hui, en 2017, par rapport à tout ce que nous avons acquis, d'une éducation plus respectueuse, d'une éducation sans violence, bien sûr pas physique. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que, alors qu'en probablement en 1962, il restait des pépites de tolérance à cette éducation qui ressemble à un dressage, là, tout à coup, nous sommes aujourd'hui mis en face de ce choix conscient, courageux, à la fois de cette femme éducatrice, mais aussi de Arthur Penn, de nous donner à voir ce défi relevé. Donc il y a le défi relevé par Hélène, le défi relevé par Annie, le défi relevé par les parents qui tolèrent la présence de cette femme qui apporte la révolution, qui apporte le désordre, qui apporte l'orage dans leur maison bien rangée par ailleurs, etc. Et il y a aussi notre propre défi à retrouver ce film et à mettre du désordre sur nos étagères. Donc pour moi, il y a le talent immense d'Arthur Penn qui garde cette acuité. C'est l'acuité de destin exceptionnel au pluriel. Il y a aussi cette densité dans cette rencontre, dans ces défis à relever. Et il y a aussi cette actualité du thème de la pédagogie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de cette actualité aussi aujourd'hui, et que pour moi je vois transposable facilement sur la question ô combien délicate de l'autisme. Cet enfermement, évidemment, il est illustré en 62 par cet enfant donc sourde, muette et aveugle, mais aujourd'hui nous pouvons voir combien il est facile à transposer pour nous, éducateurs, psy, parents, surtout ces jeunes qui sont privés d'outils habituels et faciles pour entrer en communication. Donc ça peut être tous les 10 orthographiques, 10 etc. Et bien sûr d'autres formes de différence par rapport au modèle, le modèle privilégié aujourd'hui, cerveau gauche, alors que nous avons de plus en plus d'enfants, cerveau droit, la précocité, le surdon, etc. Mais l'inversion, pour moi, la plus intéressante aujourd'hui à regarder, c'est celle de l'autisme, parce que c'est celle qui nous met, nous, éducateurs, en difficulté. Jusqu'où pouvons-nous aller pour permettre à ces jeunes, à ces enfants, à ces adultes aussi, de communiquer à nouveau avec notre monde à nous? Et pour moi, c'est une question jamais réglée, parce que je nous entends dans les groupes de supervision, dans les groupes de parents, dans les groupes d'éducateurs, remettre cette question. Jusqu'où pouvons-nous aller pour éviter de passer d'un enfant sujet à un enfant objet, objet de dressage en quelque sorte. Voilà, c'est pour ça que j'ai retrouvé avec autant de passion ce film aujourd'hui.
Alors moi j'ai vu aussi donc en effet l'abandon des parents en fait par rapport à l'éducation de cette fille qui de ce handicap là finalement abandonne.
Surtout dans une grande expérience d'impuissance.
Oui.
Et c'est bien ce que nous retrouvons aujourd'hui en face, par exemple, des enfants autistes. Alors, oui. ils abandonnent, mais pas complètement, parce qu'ils posent cet acte courageux d'accueillir cette femme dont ils voient tout de suite qu'elle ne va pas être dans la pensée unique et la complaisance et l'abandon de poste. Donc, ils ont quand même ce courage de déléguer à une personne cette mission, mission impossible a priori, de permettre à cet enfant de renaître à la vie et au monde.
En plus, c'est vrai, vous avez raison. C'est qu'en fait, en plus, ils font venir une personne de Boston,
oui.
donc du nord des États-Unis,
oui.
alors qu'ils sont dans le sud,
oui.
que le père, donc
c'est
le capitaine, le père de
oui.
cette fille, parle. Hein, il y a eu toute une scène avec son fils où
oui.
il parle de la guerre de sécession oui. et de pourquoi ils l'ont perdu. Donc il y a peut-être aussi ce. En effet, accepter une femme du Nord,
oui,
en plus.
Cette ouverture à quelque chose d'inconnu.
Ouais. Oui.
Cette ouverture à une révolution dont on ne sait pas si elle va apporter un salut à cet enfant. C'est vraiment un défi à relever. Et c'est ce que nous avons, nous, à faire, à une moindre échelle quelquefois, chaque fois que nous nous trouvons devant une zone inconnue et qui nous renvoie à notre impuissance. Voilà. Qu'est-ce que je fais de mon impuissance?
Et donc j'ai aussi, ça m'a fait repenser à ce qu'écrit Serge Boismard concernant
oui.
les enfants qui, à cause du manque de vocabulaire finalement, oui. sont dans beaucoup de violence et que le fait de leur apprendre du vocabulaire et de l'expression, cette violence tombe et c'est ce que je vois chez elles aussi. C'est
oui.
qu'à partir du moment où elles arrivent à communiquer avec l'extérieur, il y a quelque chose qui retombe dans
qui retombe, mais ça veut dire aussi que... cette Annie Sullivan, donc validée quand même par les parents, va oser passer par cette lutte gréco-romaine,
oui.
comme j'aime dire. Parce que ça, c'est quand même pas évident de cette scène, donc la salle à manger qui dure,
oui.
avec des assiettes qui sont cassées, oui. avec du dressage.
Oui.
Voilà. Et c'est ça quand même qui est étonnant de voir cette scène. Et surtout, je me méfierais bien de la tentation de considérer ça comme acquis ou comme toléré sous prétexte que ça a été efficace. C'est-à-dire,
oui.
qu'en est-il de notre tolérance à cette forme de violence-là sans l'édulcorer ou sans la justifier par une efficacité, qui serait le comble pour moi de la violence exercée sur quelqu'un, sous prétexte que ça marche.
Et en même temps, justement, elle a quand même un temps très court, parce qu'il lui donne 2 semaines.
Oui, alors ça,
ouais.
c'est pas dans la
scène. C'est pas dans la scène de la salle à manger.
Mais après, effectivement, vous avez raison de revenir à ça, les parents sont un peu découragés, ce qui est bien légitime, et que cette Annie Sullivan, tellement dans la confiance dans ce qu'elle va poser à l'aveugle, si je puis dire sans mauvais jeu de mots, va obtenir un délai supplémentaire, va obtenir 15 jours, enfermée donc dans cette maison, dans cette petite cabane au fond du jardin. Donc ce ne sera pas dans la maison bourgeoise, ça sera dans d'autres conditions, mais là on retrouve un huis clos. Et elle pose ce pari, accordez-moi 15 jours, pas un jour de plus, et laissez-moi encore tenter une expérience, faites-moi confiance. C'est extraordinaire. Et le père accepte, à contre-cœur peut-être, mais quand même, ça dit la confiance des parents sur Annie et de Annie sur Hélène. Merveilleux.
Vraiment. Oui.
Message extraordinaire.
Oui. Et justement, moi, ça m'a rappelé des choses que j'ai vécues, justement, et ces moments de contention, justement.
Oui, oui.
Où, voilà, je sais combien j'avais pu aussi apaiser, comme ça, des jeunes qui étaient en complète crise.
Oui.
Et à faire de la contention. Et pour moi aussi, comme c'était bon pour moi aussi de pouvoir le faire.
Voilà, ça veut dire que c'est signifier à l'enfant, non pas avec des mots, non pas avec des principes, etc., mais avec le corps.
Oui.
Faire contention, c'est-à-dire prendre la personne dans les bras aussi et lui dire « je suis là pour toi, il y a quelqu'un pour toi et je suis chargée là de te faire sentir à l'intérieur de ton corps la sécurité que tu peux éprouver avec moi et grâce à moi.
» Alors, vous parliez des dressages, parce que je voulais le mettre, mais c'est le demi-frère d'Hélène qui
oui.
parle de dressage.
Oui.
Et en fait, alors voilà, moi je trouve que le rôle de ce demi-frère qui paraît un peu anodin, en fait...
Pas du tout,
parce que c'est tout à fait l'exemple pour moi d'une personne qui est dans la loyauté vis-à-vis au moins de son père, et donc qui dit parfois des choses par rapport à l'éducation de sa demi-sœur, et qui, avec l'arrivée d'Annie, finalement, se rend compte qu'il était peut-être dans le vrai, dans ce qu'il proposait, même
oui.
si c'était... Voilà, et qu'il n'osait pas le dire, et que là, il y a quelqu'un qui vient, en fait, poser la chose.
Eh bien, ce frère, il est comme tous les personnages de ce film, dans l'ambivalence, dans
oui.
la perplexité, dans le doute. Il y a, voilà, ce que j'aime chez Arthur Penn, c'est qu'il a évité les risques de la caricature, de personnages monolithiques. Aucun.
Oui.
Les parents, la grande tante, je crois
oui,
c'est ça.
Oui,
et tous les personnages sont de notre famille aussi, c'est-à-dire avec ses facettes diverses, avec ses tentations d'abandonner, mais en fait cette volonté d'y arriver. Et c'est ça qui me touche tant. zéro caricature.
Oui.
Alors, zéro complaisance, zéro facilité.
Alors moi, il y a une chose, j'ai besoin peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus, mais le garçon qui est présent finalement dans cette petite maison, j'avoue que je n'ai pas compris quel était l'intérêt de faire intervenir ce garçon, mis à part qu'il était présent, que c'est un ami de jeu d'Hélène ou de combat plutôt d'ailleurs, parce qu'il y a une scène au début où ils se battent, je crois, tous les deux. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez vu
pour moi, je vois qu'initialement, il est envoyé pour être une aide pour Annie sur le plan logistique, etc. C'est famille bourgeoise, donc ça veut dire qu'on ne va pas laisser cette gouvernante, entre guillemets, toute seule. Donc ce jeune, il est d'abord là pour aider. Et puis ensuite, effectivement, il a un rôle très secondaire, bien sûr, mais rudement important également, parce que il représente l'aspect noir de cette pédagogie noire aussi. C'est-à-dire qu'il est là, corvéable à merci, bien sûr pour une cause qui est importante, n'empêche qu'il réside, il est réveillé alors qu'il dort pour pouvoir être disponible pour cette mission-là. Et moi, je trouve que c'est important que vous y reveniez. Ça veut dire à qui pouvons-nous demander un soutien, une aide inconditionnelle, peut-être une disponibilité pour nous aider à aller jusqu'au bout de la mission. Et donc, c'est vrai qu'il est important là.
D'accord.
Dans cette disponibilité d'enfant. Donc, c'est un enfant, donc, bien sûr, il est supposé obéir, mais quels sont les seconds rôles dans ces défis à relever?
Alors, juste, je vais vous demander... merci. Et donc, en fait, pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas... On n'a pas beaucoup parlé de la mère, finalement.
Oui.
Alors, la mère qui est très protectrice, en fait, par rapport à cet enfant.
Bien sûr.
En effet désemparée, oui.
Mais parce qu'elle est très seule. Et que jusqu'à l'arrivée, jusqu'au commentaire du frère et... Enfin, de son fils, donc. Et jusqu'à l'arrivée de Annie, eh bien, elle est juste en train de supporter son sentiment d'impuissance. Et bien sûr... en tant que maman plutôt que mère à ce moment-là, elle va être dans une forme de complaisance, d'abandon de poste au sens où elle laisse sa petite-fille faire tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire pendant les repas, se déplacer, manger dans toutes les assiettes. Donc elle n'a pas encore acquis la légitimité de poser un cadre, des limites, etc. Mais faute de savoir ce qu'elle va mettre à l'intérieur de ce cadre, alors que Annie, elle, va apporter quelque chose de délicat, de difficile, d'exigeant, mais cette mère, elle est perdue. Et en plus, elle n'est pas toujours soutenue par cet homme, son mari, donc qui, lui, a besoin d'efficacité, d'ordre, de discipline, et bien sûr, Hélène échappe complètement à ce modèle-là.
Oui, surtout qu'en plus, il ne l'applique pas du tout à sa fille.
Non. Donc, histoire d'un abandon, d'une menace d'abandon, menace d'un naufrage annoncé, et révolution dérangeante par ailleurs, parce que ça se passe effectivement avec de la casse, révolution qui nous invite à voir aussi nos propres résistances à nous aujourd'hui en 2017, nos résistances, chaque fois qu'il est question de révolution, que ce soit dans la pédagogie, dans la politique, dans la gestion de l'argent, etc. Ça nous invite chacun à balayer dans nos portes et à voir comment nous craignons tout ce qui peut être révolutionnaire et tout ce qui peut être posé avec un prix à payer qui est la casse. Effectivement, dans cette salle à manger, il y a la casse des assiettes, des verres, etc. Qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire comme deuil dans notre cadre de référence, dans notre maison intérieure, dans nos idées, dans nos représentations, dans nos clichés? Cette casse, elle permet d'avancer et d'accepter une révolution, des choses dérangeantes.
Et c'est vrai que cet après-midi-là, dans la salle à manger, dure tout l'après-midi. Parce une des personnes dit on passe à table.
Et c'est le dîner. Voilà. Et donc c'est une scène très longue, mais qui dit aussi symboliquement que nous avons besoin de temps pour faire ces deuils, pour avancer, pour transformer, pour nous transformer nous-mêmes. Voilà. Pour accepter ce changement d'identité aussi. Parce que Hélène change d'identité, et sans doute Annie aussi. Et toute la famille va changer d'identité. Voilà. Moi, ce qui m'a enchantée aussi quand j'ai fait des recherches sur la suite de cette vie d'Helen Keller, j'ai été absolument bouleversée de voir le visage de cette femme, donc qui meurt à 87 ans, et son sourire. Elle, enfin, ça dit que malgré ses handicaps, elle est reliée. Et je la vois communiquer avec les personnes, mettre sa main sur les visages pour les reconnaître. Enfin, tout ce parcours délicat, difficile. Et il y a ce visage qui dit de la paix, qui dit de la vie, qui dit de la santé aussi, dans sa capacité à être reliée. Mais quel parcours, quelle vie. Voilà, quelle vie.
Alors... Techniquement, donc cette scène de la salle à manger, qui est la grande scène en fait du film, donc avait été tournée. J'ai vu ça être tourné en fait à deux caméras, justement pour qu'elle puisse jouer sans être coupée.
Oui, c'est ça.
Et que Arthur Penn, après au montage, puisse changer les plans. Mais voilà. Et ça, vraiment, moi, je vais parler en tant que comédien amateur, mais quand même comédien. Je suis très impressionné par ce jeu, par ce jeu-là, et tout ce qui est dit et tout ce qui est lâché en fait à ce moment-là par ces deux comédiennes. Et je redis que ce sont vraiment des passages moi que je rêve de jouer parce que justement, il y a cette liberté-là de dire avec son corps, de crier, de
Et ce corps à corps qui m'a tellement... Et j'aime bien que vous reveniez effectivement à ce réalisateur parce que lui-même, il rentre un petit peu dans la danse, dans la mesure où vous dites bien avec ces deux caméras, comment s'est-il débrouillé, lui, pour rester dans cette densité et pour illustrer la façon dont chacun des personnages se débrouille. Voilà. Lui aussi, il avait un défi à relever.
Oui.
Et ce n'était pas simple.
Oui.
Parce que ce n'était pas une scène douce et tendre et qu'on pouvait reprendre. Et j'aime bien ça. Effectivement, lui, Arthur Penn, trouve les moyens d'illustrer au plus juste, au plus serré, au plus dense, ses défis de chacun. Voilà. C'est ça que j'ai aimé. Beaucoup. Et donc, il y a en même temps l'humour, la tendresse, l'humour dans cette scène avec l'échelle posée sur la façade de la maison. Il y a la tendresse échangée entre chacun. Il y a le doute permanent. Il y a l'embarras de chacun. Il y a le trouble. Il y a tout ça. Et c'est jamais facile. C'est jamais complaisant. Il y a toujours cette exigence de relever les défis et de rester dans les questions posées, même si on ne trouve pas la réponse. Et c'est ça que j'ai tellement aimé, là, dans ces situations. Voilà.
Vous voulez dire autre chose, Aliette, sur le film ?
Oui, voyez ce film. Oui. Si vous l'avez vu, revoyez-le, parce que chaque fois, il y a autre chose à découvrir. Laissez-vous toucher, laissez-vous choquer aussi par ce film. Laissez-vous attendrir, laissez-vous embarrasser. Et surtout, oui, acceptez d'être choqué et de le partager avec d'autres personnes. Ce qui m'avait beaucoup ému aussi quand nous l'avons vu dans un petit groupe, donc... à une proposition que j'avais faite d'une projection publique, j'avais aimé qu'à l'issue, à la dernière image, nous sommes restés tous plusieurs minutes muets, tellement nous avions été bouleversés. Et nous avons pris la parole ensuite, mais personne n'a voulu effectivement troubler ce moment d'extrême tension et d'extrême attention. Voilà ce que je veux dire. Donc voyons et revoyons ce film. Merci.
Alors, moi, je voudrais quand même citer un site internet sur lequel je suis allé et j'ai trouvé fantastique, qui s'appelle Transmettre le cinéma, je ne sais pas si...
Transmettre le cinéma.com.
Merci. Et il y a plein d'infos donc, sur comment ça a été tourné, sur la partie technique, sur la partie des acteurs. J'ai découvert ce site et ben maintenant, je sais que je pourrais aller là pour avoir beaucoup d'informations sur les films. Ouais. Aliette, merci.
Merci.
On se retrouve à la rentrée.
J'espère.
Je vous souhaite
pour d'autres aventures et d'autres films.
Je vous souhaite un bon été.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.